Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Ouagadougou, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par la politique au Rwanda. Le président rwandais Paul Kagame a procédé jeudi à un remaniement ministériel avec notamment le remplacement aux affaires étrangères de Louise Mushikiwabo, récemment élue à la tête de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et celui du très influent ministre de la Défense James Kabarebe, qui devient conseiller spécial du président. Madame Mushikiwabo est remplacée par Richard Sezibera, ancien secrétaire général de la Communauté d'Afrique de l'Est de 2011 à 2016 et ancien ministre de la Santé, indique le communiqué de la présidence. Plus inattendu est le départ d'un des piliers du régime, James Kabarebe, ministre de la Défense depuis 2010. Ce dernier occupera désormais le poste nouvellement créé de conseiller spécial du président pour les questions de sécurité. M. Kabarebe est remplacé à la tête du ministère de la Défense par le général Albert Mourasira, issu comme lui des rangs de la rébellion du Front patriotique rwandais, l'UFPR, qui mit fin au génocide de 1994 en s'emparant de la capitale Kigali, puis du reste du pays. Élection au Cameroun, le Conseil constitutionnel a rejeté la demande d'annulation partielle de l'élection présidentielle dans 7 des 10 régions du pays. Une décision qui met le point final à 2 jours d'examen de recours post-électoral introduit par l'opposant Maurice Kamto. Plus de détails avec le correspondant de VOA Africa Yaoundé, Emmanuel Jules Ntap.
La requête en annulation partielle de l'élection présidentielle introduite par professeur Maurice Kamto est non justifiée. La décision en dernier ressort des 11 membres du Conseil constitutionnel a rejeté les 9 points sur lesquels le candidat du MRC et sa dizaine d'avocats ont demandé 2 jours durant l'annulation partielle du scrutin présidentiel du 7 octobre dernier. La décision du Conseil constitutionnel a été motivée, selon son président Clément Atangana, par, citation, l'absence des preuves dans les allégations du professeur Kamto, notamment sur l'épuisement injustifié de ses bulletins de vote le jour du scrutin, le vote des militaires à la place des vrais électeurs, ou encore l'expulsion de ses représentants dans certains bureaux de vote. Les autres points du recours du professeur Maurice Kamto contre le ministère de l'administration territoriale et Elections Cameroun, l'organe en charge d'organiser les scrutins au Cameroun, ont été déclarés non fondés. Le camp Kamto n'a pas tardé à réagir à cette décision. « Je ne vais pas reconnaître les résultats qui vont faire de Paul Biya, le vainqueur de l'élection présidentielle », a déclaré Paul-Éric Kingé, directeur de campagne de l'opposant Maurice Kamto. Grégoire Owona, secrétaire général adjoint du RDPC, a pour sa part salué une décision qui préserve la paix et renforce la démocratie au Cameroun. Les résultats officiels de l'élection présidentielle sont attendus au plus tard, le 22 octobre prochain. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Élection en Afrique toujours, la passation de pouvoir de père en fils est presque une tradition sur le continent. C'est le cas entre Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila en République démocratique du Congo. Ali Bongo a succédé à son père Omar Bongo au Gabon et Fornia Singbe a accédé au pouvoir après son père Niasingbe Yadema au Togo. Certains partis politiques suivent le même chemin, comme l'UDPS en RDC, qui a vu Félix Tshisekedi succéder à son père à la tête de ce parti d'opposition. Idriss Fall a demandé à Félix Tshisekedi ce qu'il pensait de cette tradition lors d'une visite à la Voix de l'Amérique, ici à Washington.
En tout cas, en ce qui me concerne, c'est démocratique, parce que je peux parler pour moi. Vous avez parlé de l'UDPS, je suis arrivé à la tête de l'UDPS par des élections, après la tenue d'un congrès qui a réuni plus de 1000 délégués venus de partout en République démocratique du Congo et même de l'extérieur, de nos représentations à l'extérieur. Donc dans mon cas, je peux parler de régularité parce que j'ai fait mes classes politiques à l'UDPS même. Pendant plus de 20 ans, j'ai gravi les échelons un à un. Je suis parti de la cellule jusqu'à arriver au niveau national de mon parti. Donc, je n'ai rien volé à qui que ce soit. Et je pense que si le peuple congolais, mes compatriotes le veulent, je serai leur président de la République.
Mais la perception, c'est important parce que les gens perçoivent que vous êtes le fils de votre père.
Oui, mais les fils ne sont pas forcément les ennemis publics numéro un. Encore faut-il savoir ce qu'on a proposé comme héritage reçu de son paternel, on va dire. Donc moi, j'ai eu un père qui a été totalement plongé dans la politique, qui a donné même une partie de sa vie, pour ne pas dire toute sa vie, pour la cause de notre pays. J'ai beaucoup appris à ses côtés. Et je pense que je suis suffisamment aguerri pour pouvoir faire face à toutes les épreuves qui se présenteront. Je suis quelque part, en tout cas, préparé à cette grande mission.
Pour fermer la parenthèse du père, pourquoi votre papa n'est toujours pas enterré à Kinshasa?
Très bonne question. Non, ça va bientôt faire 2 ans, au mois de février prochain. Donc on est à 3 mois de la commémoration du deuxième anniversaire de sa mort. Vous faites bien de poser cette question, mais malheureusement pas à la bonne personne. Il faudrait poser la question au régime Kabila, qui a complètement gelé ce dossier. Dans quel but, je ne sais pas.
Félix Tshisekedi, président de l'UDPS en RDC, lors de sa récente visite à la Voix de l'Amérique ici à Washington.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
La lutte contre les djihadistes au Sahel maintenant. Au Burkina Faso, retour au calme ce vendredi à Djibo, chef-lieu de la province du Soum, où l'on constate une forte présence de militaires et de gendarmes après l'attaque par des dizaines d'éléments lourdement armés hier soir de la gendarmerie de cette grande ville du nord du pays. Cette attaque, la première contre Djibo, a duré près de 3 heures selon une source sécuritaire qui précise que les dégâts matériels, véhicules incendiés notamment, sont importants. Les assaillants sont parvenus à libérer des détenus et incendier une partie du local et des engins, a souligné cette source sous couvert d'anonymat. Mais il n'y a pas eu de perte en vie humaine côté gendarmerie, affirme cette source qui parle toutefois de bilan provisoire, car il y a eu des tirs dans d'autres quartiers de la ville qui ont pu faire des victimes. Longtemps épargné par les groupes armés actifs au Sahel, le Burkina Faso est confronté depuis mars 2015 à des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières. D'abord localisées dans le nord, celles-ci se sont étendues à d'autres localités, notamment dans l'est du pays. Toujours concernant la lutte contre les djihadistes, de violents combats ont eu lieu dans le nord du Mali entre des soldats de l'armée gouvernementale appuyés par la force française Barkhane et des hommes armés. D'importants matériels ont été saisis lors de ces affrontements et le site des djihadistes présumés a été détruit par la force française. De Gao, compte rendu de notre correspondant Boubacar Touré.
Depuis le 16 octobre dernier, dans la région de Ndaki, environ 200 km au sud-ouest de Gao, des combats violents opposaient les forces maliennes FAMA appuyées par la force Barkhane contre une cinquantaine de membres d'un groupe armé présumé terroriste. La force Barkhane a dépêché sur les lieux une patrouille d'hélicoptères Tigre renforcée par 2 Mirage 2000. Devant le déluge de feu de l'armée française, les ennemis ont fini par abandonner le terrain. Ce violent accroissage s'est conclu par la destruction d'un campement terroriste, une quinzaine de moutons, un pick-up et un gros stock de matériel de fabrication d'engins explosifs ont été aussi détruits. 2 soldats maliens ont été blessés pendant le combat. Le corps d'un seul djihadiste retrouvé sur les lieux. La ténacité des terroristes laisse croire qu'il s'agissait d'un site important pour eux ou qu'un de leurs chefs importants terroristes était bien présent sur les lieux. Par ailleurs, un caporal de la force Barkhane, membre du 14e régiment d'infanterie de soutien logistique parachutique de Toulouse, a été tué lors d'une opération de maintenance dans un atelier de la base de Gao. C'est un pneu d'un camion qui aurait explosé de manière accidentelle qui serait la cause de sa mort malgré les soins prodigués par les médecins. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Et pour terminer, au Comores, les forces de sécurité ont intensifié leurs opérations pour venir à bout des adversaires du régime du président Azali Assoumani, retranché depuis lundi dans le centre du chef-lieu de l'île d'Anjouan, Abdourahmane Dia.
D'importants renforts ont été envoyés hier dans la capitale d'Anjouan, où des éléments rebelles affrontent depuis lundi les forces comoriennes. Une délégation de l'exécutif de l'île a été reçue par des représentants du gouvernement dans un endroit tenu secret. Après 4 jours d'affrontements meurtriers survenus en raison de vives tensions suite à la volonté du chef de l'État de prolonger son mandat, la crise se concentre dans la médina, fief des opposants. Des tirs et des explosions ont encore été entendus hier jeudi. Ailleurs dans la ville où un couvre-feu nocturne est en vigueur, la situation semblait être redevenue normale, même si les habitants souffrent de pénurie. Il n'y a ni eau ni électricité depuis 2 jours. Depuis le début de la crise lundi, les autorités ont donné un bilan d'au moins 3 morts. Des témoins ont fait état de plusieurs blessés. Le gouvernement accuse le parti Djoua de l'opposant et ancien président Abdallah Sambi d'être à l'origine des violences.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.